Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, on va revenir sur la décision en Nouvelle-Zélande d'interdire les armes semi-automatiques et fusils d'assaut, ce qui ravive le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Dans les rangs démocrates, on veut prendre l'exemple sur la Nouvelle-Zélande, dans un pays où, vous le savez, les tueries ne sont pas rares. On parlera du Nicaragua et de la décision des autorités de libérer tous les opposants incarcérés pour relancer le dialogue. Et puis notre invité sera Yannick Lahens, la romancière haïtienne, à quelques heures de son discours inaugural au Collège de France et de l'ouverture de la nouvelle chaire Monde francophone. Et on commence donc avec la revue de presse des Amériques. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, la décision des autorités néo-zélandaises de bannir les armes semi-automatiques et les fusils d'assaut 6 jours seulement après le massacre de Christchurch, une initiative scrutée et même enviée par les médias américains.
Et pour cause, les États-Unis sont considérés comme le pire pays en ce qui concerne les tueries de masse, comme le rappelle le New York Times ce matin. Et voir des autorités de Nouvelle-Zélande réagir aussi vite et avec une telle fermeté contraste avec la réaction des autorités américaines qui sont incapables de prendre les mesures nécessaires selon le New York Times. Depuis 1970, près d'1,5 million d'Américains ont perdu la vie à cause des armes à feu, ce qui dépasse le nombre de morts de soldats américains dans tous les conflits auxquels les États-Unis ont participé. Autant dire que les mesures annoncées par la première ministre néo-zélandaise font rêver certains médias américains à l'image du New York Times.
Alors concrètement Romain, comment les autorités néo-zélandaises comptent-elles s'y prendre ?
Eh bien comme l'explique le Washington Post, le gouvernement va mettre en place un programme de rachat des armes à feu pour les retirer de la circulation et ceux qui refuseraient de les remettre aux autorités seront soumis à des amendes très sévères. Le 15 mars, notre histoire a changé pour toujours, a expliqué Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise. Maintenant, nos lois vont également changer. Dans un pays où la chasse et le tir sont de véritables hobbies, ce changement est une véritable révolution. Une révolution indispensable pour rendre notre pays plus sûr, s'est justifié Jacinda Ardern. Une révolution qui fait donc des envieux aux États-Unis, comme le laisse entendre le Washington Post.
On reste aux États-Unis, Romain, après le crash d'un avion près d'Addis Abeba. L'agence fédérale de l'aviation américaine est sur la sellette. Elle est critiquée pour avoir tardé à interdire de vol les Boeing 737 MAX, mais surtout pour son processus de certification de ses appareils. Le dirigeant par intérim de l'autorité de régulation aéronautique américaine qui a autorisé la mise en service de ce modèle sera auditionné par le Congrès. La presse américaine révèle des liens étroits entre la fédération et Boeing dans le processus de certification de ces avions. Une enquête vient d'être ouverte par le FBI. La correspondance d'Éric De Salve.
Selon les médias américains, des liens incestueux entre l'agence de régulation aéronautique et Boeing pourraient expliquer comment le 737 MAX a été mis sur le marché malgré un stabilisateur probablement défaillant. Avant toute autorisation de mise en service, un nouveau modèle d'avion passe par un processus de certification de plusieurs années dont la FAA, l'agence fédérale aéronautique américaine, est en charge. Or, depuis 2005, faute de moyens, la FAA a progressivement délégué ces vérifications aux employés de Boeing eux-mêmes. Le 737, aujourd'hui cloué au sol, a donc été le premier avion produit par Boeing à être en partie certifié par ses propres soins. Or, selon des sources citées par le Seattle Times, cette certification a été accélérée pour permettre au constructeur américain de rattraper son retard sur le concurrent du 737 MAX, l'Airbus A320neo. Résultat, les vérifications du nouveau logiciel de stabilisation aujourd'hui en cause dans 2 crashs et dont la mort de 346 passagers auraient été négligées. Depuis ce mardi, à la demande du ministère des Transports, ce processus de certification de la FAA fait l'objet d'une enquête. Il sera également au cœur de l'audition par les sénateurs américains du patron par intérim de l'agence aéronautique américaine le 27 mars prochain. Éric De Salve, San Francisco, RFI.
Tout autre sujet dans la presse, Romain. Au Nicaragua, où le dialogue entre les autorités et l'opposition semble être dans une impasse, le gouvernement annonce des libérations de prisonniers politiques dans les 80 prochains jours.
Oui, cette question de la libération des opposants et la poursuite de la répression contre les manifestants qui réclament le départ du président Daniel Ortega sont les deux points qui empêchent depuis lundi dernier la reprise du dialogue. L'Alliance civique, qui rassemble différents secteurs du pays, ne compte pas se rasseoir à la table de négociation tant que le gouvernement n'aura pas respecté ses engagements. Et selon la Pleine Salle, les pressions exercées par les États-Unis et l'Union européenne ces derniers jours ont forcé la main aux autorités qui se seraient donc engagées à libérer tous les prisonniers politiques dans un délai maximum de 90 jours. Et pour faire taire les critiques, les autorités ont annoncé que ces libérations se feront en présence du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, précise le quotidien La Pleine Salle.
Direction le Venezuela à présent, qui attend toujours le remaniement ministériel annoncé dimanche dernier par le président Nicolas Maduro.
Oui, c'est un pays qui est dans l'attente, comme l'explique ce jeudi le quotidien Dos Mil Uno. En attente de voir le jeu de chaises musicales au sein du gouvernement, puisque un remaniement est pressenti depuis le week-end dernier, et également dans l'attente de savoir ce que compte faire le président autoproclamé de transition, Juan Guaido. Pour l'instant, les deux hommes qui se disputent la présidence du Venezuela restent très discrets. Nicolas Maduro a tout de même fait une apparition télévisée hier pour annoncer une prochaine livraison d'aide médicale en provenance de Russie, sans préciser la date, ni le type d'aide, ni les quantités. Quant à Juan Guaido, Dos Mil Uno remarque qu'il n'assistait à aucun acte public ce mercredi et qu'il ne s'est exprimé qu'une fois sur les réseaux sociaux pour demander encore une fois à Michel Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, de venir sur place accompagner la délégation qui doit se rendre justement aujourd'hui à la frontière brésilienne.
Michel Bachelet qui n'a pas hésité à critiquer hier la répression des autorités vénézuéliennes, mais qui a également critiqué les sanctions américaines qui pénalisent encore plus le peuple vénézuélien.
Oui, si la crise économique, sociale et politique a commencé bien avant que les États-Unis n'adoptent des sanctions, estime Michel Bachelet, ces dernières n'ont fait que contribuer à aggraver la crise économique avec des répercussions possibles sur les droits fondamentaux des personnes et sur leur bien-être, a tenu à expliquer hier la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Michel Bachelet qui a également annoncé que ses bureaux disposaient désormais de dossiers bien fournis concernant la répression des forces de l'ordre contre les opposants, précise la Patilla. Exécution, torture, incarcération sans justification, pression, la liste est longue et va continuer à se remplir, estime Michel Bachelet qui dit attendre le retour de la délégation présente depuis plus d'une semaine au Venezuela pour tirer des conclusions. Et puis, pour être complet concernant le Venezuela, on a appris il y a peu l'arrestation la nuit dernière de Roberto Marrero, chef de cabinet du président autoproclamé de transition Juan Guaido. Selon le site d'information Efecto Cucuyo, un contingent important du SEBIN, les services de renseignement vénézuéliens, ont procédé à son arrestation après une fouille exhaustive de sa maison. Une information confirmée tout à l'heure par Juan Guaido sur les réseaux sociaux.
Merci Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Les nouvelles haïtiennes à présent avec Franz Duval du Nouvelliste et la disparition d'un député fait la une aujourd'hui en Haïti.
Cela fait des jours et des jours que la Chambre des députés est sans nouvelles d'un de ses membres. Tantôt on annonce sa mort et séance est tenue pour établir le protocole de ses funérailles. Tantôt on annonce qu'il est bien vivant. Deux évidences. On ne cite plus le nom du député lors de l'appel nominal avant les séances comme le veut la coutume en Haïti et aucune date n'est annoncée pour l'enterrement du député qui n'a plus été vu depuis le 2 mars.
Et la suite du vote sur la destitution du Premier ministre Jean-Henri Séan.
Depuis lundi, le Sénat haïtien essaie de se réunir pour statuer sur le sort du Premier ministre Jean-Henri Séan. Tantôt il n'y a pas de quorum, tantôt les sénateurs ne peuvent pas s'entendre sur une position commune. Entre-temps, les députés haïtiens ont destitué lundi le Premier ministre. L'acte est irrévocable. Cependant, Jean-Henri Séan a décidé de saisir un tribunal pour une action inédite. La justice haïtienne en a vu d'autres, mais cette fois, c'est tout le pouvoir législatif qui est remis en question par un Premier ministre et des sénateurs haïtiens.
Franz, le sénateur américain Marco Rubio était en visite hier en Haïti.
L'élu républicain de Floride a rencontré le président Jovenel Moïse autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Haïti et les États-Unis, ainsi que sur l'investissement, la sécurité et les élections, a précisé le chef de l'État haïtien sur son compte Twitter. Le sénateur américain, pendant sa visite, a aussi rencontré les présidents des deux chambres du Parlement haïtien, le sénateur Karl Murat Cantave et le député Gary Bodo, des responsables de partis politiques, des membres du secteur des affaires et de la société civile. Selon l'ambassade américaine, Marco Rubio a remercié le président Moïse pour son soutien dans le dossier Venezuela et a évoqué les possibilités de partenariat pour le développement économique et la lutte contre le trafic de la drogue avec les autorités haïtiennes.
Le président Jovenel Moïse qui sera en Floride demain.
À l'invitation du président Donald Trump, le président haïtien participera ce vendredi à un mini-sommet en vue de renforcer la coopération en matière de sécurité et de commerce entre l'administration Trump et les Caraïbes. La rencontre avec Donald Trump réunira les dirigeants des Bahamas, de la République dominicaine, d'Haïti, de la Jamaïque et de Sainte-Lucie, a annoncé la Maison-Blanche. Le président Trump profitera de cette réunion pour remercier les dirigeants de ces pays du soutien qu'ils ont apporté au processus de paix et de démocratie au Venezuela. Le président américain discutera aussi de sa vision des relations avec les Caraïbes et des opportunités potentielles d'investissement dans l'énergie. Il abordera enfin la lutte contre les pratiques économiques prédatrices de la Chine, selon la Maison-Blanche.
Et puis, Franz, de bonnes nouvelles côté sport pour Haïti.
À Abu Dhabi et à Dubaï, du 14 au 21 mars, une délégation d'athlètes haïtiens a concouru lors des spéciales olympiques de 2019. Avec 4 filles en athlétisme qui ont remporté 4 médailles, une en or et 3 en argent, 2 athlètes de l'équipe d'équitation qui en ont gagné 5 autres médailles, une en bronze, 2 en argent et 2 en or, et l'équipe de football unifié qui a raflé une médaille d'or, Haïti a fait très bonne figure.
Et puis en football, Haïti espère sa qualification dimanche face à Cuba.
La sélection haïtienne de football affronte l'équipe cubaine dans un match de qualification pour la Gold Cup ce dimanche 24 mars 2019 à Port-au-Prince. En cas de victoire face à Cuba, Haïti sera désormais partie de la première catégorie de la Ligue des Nations de la CONCACAF. La sélection nationale de football sera aussi qualifiée pour la Gold Cup qui sera organisée en juin 2019 aux États-Unis d'Amérique.
Merci Frantz Duval du Nouvelliste.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
L'écrivaine haïtienne Yannick Lahens donnera sa leçon inaugurale au Collège de France à Paris ce soir pour la chaire Monde francophone, une chaire récemment créée par la prestigieuse institution dans le but de favoriser la réflexion autour de la francophonie et de ses expressions culturelles. Yannick Lahens, qui habite à Port-au-Prince, en sera la première titulaire. Sa leçon inaugurale porte le titre « Urgence d'écrire, rêve d'habiter ». S'en suivront d'autres cours jusqu'en juin prochain avec comme fil rouge la littérature et l'histoire haïtienne, comme elle l'explique dans une interview avec Arim Lipol, qui lui a d'abord demandé ce que représente pour elle le fait d'être choisie pour inaugurer cette nouvelle chaire au Collège de France.
D'abord, je pense que c'est une grande responsabilité et un privilège à la fois de pouvoir parler finalement de ces mondes au pluriel, parce que c'est une diversité de mondes, et de les faire connaître à partir d'Haïti, qui est, puisque je vais consacrer le cours à la littérature et à l'histoire d'Haïti, qui éclaire cette littérature. Il ne faudrait pas que ça s'arrête à l'histoire et la littérature haïtienne. Pour moi, c'est montrer comment il y a toute une potentialité non utilisée autour des savoirs de ces mondes francophones. Parce qu'il y a des tas d'archives qui sommeillent en France. Il y a beaucoup de possibilité de savoir historique, de savoir culturel sur ces mondes, mais que l'on ne connaît pas. Donc, il faut un petit peu décentrer le regard. Et ce serait vraiment la chose essentielle à faire.
Décentrer le regard, c'est aussi une critique, finalement, un petit peu de l'eurocentrisme qui habite toujours, finalement, cette notion de la francophonie.
Tout à fait. Et je crois que la francophonie, moi je le dis, c'est ma position, c'est avant tout un instrument politique économique. Et le fait d'avoir intitulé la chaire justement Monde francophone au pluriel, je crois qu'on est beaucoup plus libre en tant que chercheur d'explorer justement le terrain culturel.
Vous êtes écrivaine haïtienne, vous avez choisi de rester en Haïti. Beaucoup de vos collègues ont choisi l'exil, ont choisi de s'installer ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en France aussi. Pourquoi ce choix de rester en Haïti pour raconter la réalité, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans vos livres, la réalité haïtienne?
D'abord, je suis restée parce que comme Gary Victor, comme Lionel Trouillot, ou d'autres personnes comme Kathleen Mars ou Evelyne Trouillot, je pouvais rester. Il y en a qui ne pouvaient pas rester à un moment donné. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi ceux qui peuvent rester ou qui ont choisi de rester et les autres. Je crois que aujourd'hui, je ne pose aucun jugement sur les choix individuels des uns et des autres parce que de toute façon, cet appel de l'ailleurs existe depuis la naissance d'Haïti. Ça a traversé tout le 19e siècle et cette espèce de désir du Nord traverse toute la littérature haïtienne et pas seulement la littérature haïtienne, les mouvements migratoires.
Parlez-nous un petit peu de cette littérature haïtienne qui aujourd'hui devient une littérature monde parce qu'elle se décline en plusieurs langues, en français bien sûr, en créole bien sûr, mais aussi en espagnol, en anglais.
D'abord, je pense que là, Haïti est en train de se recentrer sur son lieu géographique qui est l'Amérique. Donc là, la littérature se fait dans 4 langues de l'Amérique. Je pense que c'est parce aussi qu'Haïti a eu une sorte de préséance quant à l'expression sa littérature, l'expression des croisements qui ont eu lieu dans l'Atlantique à un moment donné. Et donc, avec les mouvements migratoires des années 1960, elle est partout où elle est allée, elle a pris racine, parce que je pourrais dire que dans l'immigration, la littérature est dans l'ADN des Haïtiens un peu. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une littérature qui parle d'Haïti et qui s'écrit en anglais, une littérature qui parle d'Haïti et qui s'écrit en espagnol. Et évidemment, en Haïti même, on a le créole et le français. Donc je pense que c'est effectivement une sorte de préfiguration de ce monde en train de se faire.
Yannick Lahens, titulaire de la chaire Monde francophone au Collège de France, au micro d'Arim Lipol, la leçon inaugurale se tiendra ce jeudi soir de 18h à 19h. Elle sera retransmise en direct sur le site du Collège de France. L'actualité ultramarine avec le journal La Première Caraïbe. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, la Martinique serait-elle en train de devenir une plaque tournante du trafic de stupéfiants dans la Caraïbe ?
On pourrait en effet se poser la question au vu du chiffre des saisies en 2018, 2 tonnes et 600 kilos, un chiffre en hausse par rapport à 2017, mais pour autant, cela ne signifierait pas forcément que l'île des Antilles soit devenue un centre névralgique du trafic de drogue dans la Caraïbe. C'est en tout cas l'avis de Jean-François Duteil, c'est le directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane.
Est-ce que la Martinique est un territoire qui attire les narcos ou attire les stupéfiants ? Je ne le crois pas. C'est juste une conjonction entre une expédition de stupéfiants et une réception qui doit passer par un point. Et ce point, ça peut être la Martinique, ça peut être la Guadeloupe, ça peut être Saint-Martin. Voilà. Donc, on a des tas d'exemples comme ça. Donc je ne voudrais pas qu'on puisse penser que la Martinique devient une plaque internationale de négoce de la cocaïne. Ce qui nous alerte néanmoins, effectivement, c'est l'augmentation des saisies et puis l'apparition de nouveaux phénomènes comme les saisies de cash, qui laissent à penser, malgré tout, que des choses se passent sur le territoire martiniquais et que tous les services de douane, donc les services de police, les services de gendarmerie, soient très très vigilants dans cette approche-là. Et nous le sommes, avec sous l'autorité du préfet, dans le partage de l'information et l'adaptation des moyens à la lutte, à une lutte efficace contre le trafic de produits stupéfiants.
On reste en Martinique avec cette menace exprimée hier à la Chambre d'agriculture, menace des ouvriers du secteur de la banane, principale exportation agricole du département, ouvriers qui menacent donc de se mettre en grève si les patrons ne leur versent pas la prime de vie chère souhaitée par le président de la République, Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Anatole.
Le ras-le-bol est total dans les champs de bananes à la Martinique. Les ouvriers sont au bord de l'implosion. Depuis de nombreuses années, ils se sentent bernés par leur patron. La prime de vie chère d'Emmanuel Macron est la goutte d'eau de trop. Marie-Hélène Marthe Di Surelli, secrétaire générale de la CGTM Ouvriers Agricoles.
Qui ouvrier agricole qui pas en vini en 13e mois? Qui ouvrier agricole qui a refusé que y ait un ticket déjeuner? Nous tous, c'est des smicards. Est-ce que c'est normal? 30 ans, 40 ans, 25 ans, ou qu'on travaille dans une entreprise, pas ni reconnaissance.
Si la prime de vie chère n'est pas versée d'ici le 31 mars, les ouvriers agricoles vont déterrer la hache de guerre.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci, Benoît Ferrand. Et bon après-midi à vous aussi. On termine en musique avec Caro Ferrer et Lyra.
As notas da sua lira. O verso é meu, o resto é seu. Tá tudo fora do lugar. Contradição, isso de você. Depois querer voltar sem pressa. O verso é meu, o resto é seu. E já que a sua lira é quem faz essa canção que nos diz não, que me atravessa.
Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 14h10, heure de Paris.